Vous êtes sur Radio Orient. Bonjour à tous. Votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, avant un discours prévu la nuit prochaine, Donald Trump affirme que les États-Unis quitteront l'Iran d'ici 2 à 3 semaines. Mais Benjamin Netanyahou annonce qu'Israël continuera la guerre contre Téhéran. Une journaliste américaine enlevée en Irak. Enfin, entretien avec le député Stéphane Peu autour des propos polémiques qui ont visé le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, suite à une question qu'il a posée à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a apporté son soutien à l'élu LFI. Donald Trump veut rassurer les Américains qui se plaignent de la hausse du prix du pétrole. Le chef de la Maison-Blanche assure que les États-Unis vont quitter l'Iran très bientôt, dans 2 ou 3 semaines selon lui. Il assure que le blocage du détroit d'Ormuz n'est plus son problème. Ces derniers jours, le président américain a multiplié les déclarations contradictoires sur la poursuite ou la fin de la guerre. On en saura peut-être plus dans les heures qui viennent, puisque Donald Trump doit prononcer un discours à la nation la nuit prochaine, selon son porte-parole. Il donnera de nouvelles informations importantes sur l'Iran. Benjamin Netanyahou affirme que désormais, l'Iran ne constitue plus une menace existentielle. Le Premier ministre israélien ajoute cependant que la guerre contre l'Iran n'est pas terminée et qu'Israël va continuer d'écraser le régime terroriste. Fin de citation. En Iran, les gardiens de la révolution menacent de viser les entreprises américaines du secteur des hautes technologies au Moyen-Orient en cas d'assassinat de tout nouveau responsable iranien. Sur le terrain, l'armée israélienne annonce avoir conduit une vague de frappes de grande ampleur visant des infrastructures des autorités iraniennes à Téhéran, des complexes sidérurgiques du centre et du sud-ouest de l'Iran ont été engagés par des frappes israélo-américaines. À Beyrouth, des frappes israéliennes la nuit dernière ont fait 7 morts et de nombreux blessés. Une 20aine de personnes ont été blessées en Israël après de nouveaux tirs de missiles iraniens, notamment dans la région de Tel Aviv. Aux Émirats, un ressortissant du Bangladesh a été tué par des débris de projectiles. Et puis les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué leur 3e attaque de missiles contre Israël. Une attaque qui n'a fait ni victime ni dégâts, selon les médias israéliens. On apprend également qu'une journaliste américaine a été enlevée en Irak par un groupe armé, peut-être pro-iranien. Shelley Kittleson est une journaliste qui collabore notamment avec le site spécialisé sur le Moyen-Orient, Al Monitor. L'ONG Reporters sans frontières se dit très préoccupée par cet enlèvement. Les bourses européennes ont ouvert en forte hausse ce matin. Les marchés semblent rassurés par les dernières déclarations de Donald Trump sur la fin prochaine de la guerre en Iran. Enfin, la Commission européenne appelle à réduire la demande de pétrole en Europe. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Tension entre la France et les États-Unis. Alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient, Donald Trump dénonce le manque de coopération des autorités françaises. Une critique qui s'étend aussi à d'autres alliés traditionnels des États-Unis. Washington envisage de réévaluer ses relations avec l'OTAN. On fait le point avec vous, Marc-Aurel Barrez.
En lettres majuscules sur son réseau trousse sociale, Donald Trump s'est plaint d'une France, je cite, très peu coopérative. Il accuse Paris d'avoir refusé le survol de son territoire à des avions américains. Ces derniers transportaient du matériel militaire en direction d'Israël. La France s'est dit de son côté mardi étonnée des reproches du président américain. L'Élysée assure que sa position n'a pas changé depuis le premier jour du conflit. Mais la France n'est pas le seul pays concerné par ces critiques. D'autres pays de l'OTAN, dont l'Espagne et l'Italie, sont aussi pris pour pour cible. Ils sont accusés de ne pas avoir autorisé le survol de leur territoire ou d'utiliser les bases américaines pour acheminer du matériel militaire à Israël. L'alliance transatlantique souffre donc de la guerre entre l'Iran et la coalition israélo-américaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a remis en cause comme jamais le lien transatlantique avec l'OTAN. Il a déclaré mardi que les États-Unis devaient réexaminer leurs relations avec l'Alliance Atlantique militaire une fois la guerre contre l'Iran terminée. Il a ajouté que la décision reviendrait au président. Et voilà ce que disait le principal intéressé vendredi dernier. Nous aurions toujours été là pour eux, mais maintenant, au vu de leurs actions, je suppose que nous devons plus l'être. Le lien transatlantique est donc bien mis à l'épreuve.
Merci Marc Aurel Barrez. Également dans notre dossier du jour, les attaques subies par le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Le maire de Saint-Denis est un agent de l'État. Il mérite une protection particulière. Dès lors qu'il aura porté plainte, je demanderai au préfet de Seine-Saint-Denis de se constituer partie civile à ses côtés. C'est ce qu'a déclaré mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu après les propos visant le maire LFI. Le chef du gouvernement répondait à une question de Stéphane Peu, le président du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Stéphane Peu, interrogé par François-Xavier de Calonne.
La satisfaction quand même dans la réponse du Premier ministre, c'est que d'abord par les propos du ministre de l'Intérieur avant et par ceux du Premier ministre, il y a quand même une prise de position claire sur la dérive de ce débat qu'on a constaté depuis quelques jours. Et puis ensuite, à la plainte qu'a annoncé déposer Bali Bagayoko, le Premier ministre a fait savoir qu'il demanderait au préfet, au nom de l'État français, de se constituer partie civile à l'appui de cette plainte. Donc c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'État considère à juste titre qu'il ne peut rester spectateur ou indifférent à l'évolution d'un débat public qui, je le rappelle, traite la question du racisme comme une opinion. Or, en France, ce n'est pas une opinion, le racisme. L'antisémitisme, le négationnisme, ce ne sont pas des opinions. Ce sont des délits au regard du droit français. Et donc, on ne peut pas tenir des propos racistes. On sait ce que ça a généré de drames dans l'histoire de l'humanité. Et donc, voilà, hors de question de tolérer. Et le Premier ministre l'a confirmé. Bon, on peut toujours dire que c'est un peu tard, mais enfin, voilà, c'est bien. Et c'était le sens et le but de ma question, donc je suis plutôt content.
Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis, et donc de Seine-Saint-Denis. Oui. Justement, le regard porté sur ce département qui dispose de très grandes richesses, pourquoi ces richesses ne sont-elles pas suffisamment mises en lumière et que faudrait-il faire pour qu'elles le soient? Ce n'est pas uniquement le rôle des médias, même si ça l'est aussi.
Oui, non, mais moi j'ai fait deux rapports parlementaires sur la Seine-Saint-Denis. D'abord, je pense qu'il faut que c'est le département le plus jeune de la France hexagonale. Donc quand on a le département le plus jeune de la France hexagonale, un pays qui se projette vers l'avenir est un pays qui fait confiance à sa jeunesse et qui mise sur sa jeunesse. Et donc si ce pays voulait miser sur sa jeunesse, il miserait beaucoup sur la Seine-Saint-Denis, il ne le fait pas assez.
Pour en faire un atout, vous le dites, il faut aussi lutter contre la criminalité, le taux de criminalité est nettement plus élevé dans ce département. Ça, c'est un élément très important. Quels sont les moyens aujourd'hui qu'il faut mettre à disposition de ce département pour combattre cette criminalité dont sont victimes les citoyens?
Il faut que l'État traite à égalité ce département avec le reste des départements de la République. Or, sur les missions régaliennes qui sont les siennes, la justice, la sécurité publique ou l'éducation, il y a moins de moyens dans ce département qu'ailleurs. Quand un officier de police judiciaire dans un commissariat de la Seine-Saint-Denis a en moyenne 300-400 dossiers, le même officier de police judiciaire passé le périphérique à Paris en aura que 80. Bon, bah, cette disparité de moyens, d'attention, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la justice ou de l'école, eh ben, c'est absolument pas tolérable et il faut rétablir un État fort en Seine-Saint-Denis, notamment pour assurer ses missions régaliennes dont font partie la sécurité.
Le député PCF Stéphane Peu, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Bonne suite de programme sur Radio Orient.